Ta comédie va Café Clatch.
Salut, c'est Naïm.
Salut, c'est Patrice.
Et vous écoutez le premier épisode de Café Clatch. Au programme pour cette saison, on a booké pour vous la crème des acteurs du marketing luxembourgeois.
La crème de la crème, carrément. C'est-à-dire, le premier épisode, on démarre avec les premiers jeux de mots autour du café.
On aurait aussi pu appeler Tati Daniel pour clatcher, mais ça aurait été moins intéressant. On aura des invités dans l'immobilier, dans les cryptos, dans le vin, dans l'IA et aussi dans les agences.
Ouais, d'ailleurs, bon, on va accueillir Antoine Cordier, qui est Head of Digital Marketing chez eConnect pour ce premier épisode.
Salut, moi c'est Antoine Cordier, je suis Head of Digital Marketing chez eConnect et j'adore le café léger avec deux sucres le matin au petit-déj.
Bonjour Antoine, comment ça va?
Bah, ça va très bien, et toi Patrice?
Ça va très bien, merci. C'est vrai ça, deux sucres le matin au petit-déj?
Non, je bois que du thé.
Pour les premières invités, on invite quelqu'un qui déteste le café, c'est parfait. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci.
Oui, bah, avec plaisir, puis okay, enchanté d'être là.
Super, bah, merci à toi d'être venu. Première expérience, podcast?
Alors pas vraiment, j'ai eu la chance de suivre d'assez près les aventures de podcast d'amis à moi qui ont fait pendant pas mal d'années un podcast sur le football américain. Donc je les ai suivis de près et j'ai appris pas mal de choses.
T'as participé en tant qu'animateur?
Non, j'ai pas participé en tant qu'animateur. J'ai suivi derrière en studio, okay, en silent listener.
Ça marche. Café Clatch, tu connais le sens de cette expression?
Alors pas exactement, je crois savoir que c'est une expression en patois lorrain ou luxembourgeois, je crois. Mais...
Ouais, c'est à peu près ça, disons que le terme Café Clatch, pour ceux qui nous écoutent, c'est plutôt d'origine allemande. Clatch, bah, café, hein, le café classique. Clatch, ça fait référence à un bavardage, des commérages, voilà, souvent on parle de grand-mère qui se rassemble pour faire café clatch dans un salon de thé avec une petite pâtisserie. Ça raconte papotage autour des voisins, etc. Je crois que c'est une tradition alsaco-mosellane. Voilà, donc c'est une réunion conviviale entre amis, entre collègues, connaissances qui discutent autour d'une tasse de café. Voilà, donc là, on est là ensemble. Alors, il manque juste les pâtisseries.
Ouais.
Désolé, mauvaise organisation. Premier épisode, hein, on démarre. donc là, on va prendre le temps de s'asseoir tranquille et puis discuter, on va clatcher autour du thème de l'intelligence artificielle avec toi et des possibilités de doper sa productivité avec cet outil. Ouais. Pas en avoir peur. Donc si tu veux bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi, si tu veux bien. Donc toi, comment t'as vraiment débuté dans le domaine du marketing digital?
Alors j'ai commencé en fait à m'y intéresser assez tôt, quand j'avais 18 ans. Bon, j'ai toujours été tout le temps...
Ça remonte.
Ouais, je suis plus si jeune. Ça fait plus de 15 ans hein, maintenant. Et en fait, à la base, j'étais beaucoup, voilà, j'ai toujours été fasciné par les ordi, par l'informatique. Dès que c'est arrivé, en fait, voilà, les premiers jeux vidéo, Internet. Et très vite, en fait, j'ai commencé à faire beaucoup de... Avant de rentrer dans la pratique, à tout de suite vouloir comprendre, en fait... Ben voilà, on commençait à utiliser Google, par exemple, tous les jours. Et je voulais vraiment comprendre comment ça marchait. Ça me paraissait un peu dingue de poser des questions à un truc et de ne pas comprendre, voilà, pourquoi il me donnait telle réponse.
Pourquoi, ouais. Comment il optimisait ses réponses.
Ouais, voilà. Et donc, très tôt, j'ai essayé de comprendre, en fait, comment ça marchait. Et puis, ben, en fait, je suis tombé dans le SEO. Le SEO m'a mené, en fait, créer mon premier site. Ensuite, créer mon premier site m'a mené forcément à faire un petit peu de dev, à aussi, ben, plus tard, vers les canaux de publicité. La publicité, quand il faut en faire, ça te mène vers le design. Une fois que tu as fait des pubs, il faut t'intéresser aux résultats, donc ça m'a amené vers la data. Donc en fait, c'est un peu comme une pelote sur laquelle j'ai tiré un peu toute ma vie. Et comme cette pelote est quasiment infinie, voilà,
t'as joué un peu le couteau suisse en fait.
Ouais, voilà.
T'as découvert un peu tous les aspects du métier autour du marketing propre à Internet.
Je me suis retrouvé en fait à faire un projet, et comme c'était le début et que j'étais tout seul et que moi j'ai pas fait d'études en fait là-dedans, j'ai forcément tout appris sur le tas et un peu quand fallait faire un site, fallait que je comprenne comment ça marchait un serveur. Du coup, j'ai découvert OVH, je leur ai loué un truc. Enfin, tu vois, après, il a fallu faire des graphismes. Donc, je me suis dit, je vais aller sur Canva. Et donc, ouais, le fait d'avoir découvert un peu ça tout seul dans mon coin, tout au long de ma vie, a fait que j'ai un profil qui est parce qu'on a un mouton à cinq pattes,
ouais, on va ouais. dire. Justement, ton parcours de formation, j'ai vu sur ta fiche Wikipédia, tu as fait une école à San Francisco, c'est ça?
Ouais, donc, ouais.
Pourquoi les États-Unis? Pourquoi alors, San Francisco?
Ce qui est en fait, j'ai, pendant un moment de mes études, je préparais l'école supérieure d'interprète et de traducteur de la Sorbonne. Et avant de rentrer dans cette école, en fait, il faut vivre à l'étranger, dans des pays qui parlent tes langues. Mmh. Donc moi, mes langues, c'était l'anglais et l'espagnol. Et donc, bah, j'étais parti vivre à un moment après... C'était après ma L3 en économie. Voilà, je suis parti vivre un an à San Francisco pour préparer mon école d'interprète et traducteur.
Ok. Et du coup, le football américain?
Ouais, bah c'est,
fan
c'est
des
devenu,
49ers.
Ouais, c'est malheureusement, mais c'est devenu une grande passion. Ouais.
C'est pas le sujet, hein, je vais pas te remuer le couteau par rapport au Super Bowl. Okay, comment t'as vu évoluer? Donc, tu me disais que tu as travaillé dans ce domaine depuis maintenant une quinzaine d'années. Comment t'as vu évoluer le domaine du marketing digital depuis le début de ta carrière?
Ouais.
Parce qu'il y a 15 ans, c'était vraiment pas pareil.
Ouais, ouais. Bah, en fait, j'ai le sentiment qu'au début, si tu veux, quand tu commençais. Tu faisais, par exemple, moi j'ai commencé, je faisais du SEO. Et en fait,
référencement naturel. Hein,
pour ouais, ceux qui, voilà, voilà, du référencement ouais. naturel. Et quand tu avais ce skill set là, en fait, tu allais quelque part et tu faisais que du SEO toute la journée. Et tu avais des spécialistes en SEO et c'était tout, tu vois, tu faisais que du SEO. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus, il faut avoir quand même certaines cordes à son arc. Tu survis beaucoup plus difficilement, peut-être même plus du tout. En tant que, par exemple, juste consultant SEO, il va falloir aussi que tu aies au moins quelques notions en data, quelques notions en copywriting, etc. Donc, j'ai l'impression que les profils, en fait, au fur et à mesure du temps, se sont quand même assez diversifiés. Ouais. Avant, on avait un truc, c'était notre pilier, on faisait que ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ben, tu fais du SEO, mais que tu es aussi...
C'est un levier.
Ouais, mais... et tu es quand même plus conscient et tu es capable de gérer certaines problématiques peut-être dans d'autres piliers du web marketing. Okay. Les profils ont un petit peu, se sont peut-être déspécialisés, je pense.
Mais justement, en parlant de profil, pour quelqu'un qui serait totalement novice en la matière, parce que voilà, on veut aussi cibler les personnes qui ont envie de comprendre comment fonctionne le marketing digital. Comment tu leur expliquerais justement à des gens novices en la matière en quoi ça consiste le marketing digital?
C'est pas très différent du marketing traditionnel. Le marketing traditionnel, en fait, c'est la définition pure et dure, c'est d'acquérir des parts de marché. Donc, toi, tu as une entreprise qui a un service ou un produit. Tu es face à des concurrents et il y a un nombre de clients potentiels limité. Et donc, le but du marketing, c'est de prendre des parts de marché ou d'en gagner là où tes concurrents ne sont pas présents. Mm-hmm. Marketing digital n'est pas très différent, sauf qu'il se passe en fait sur tous les endroits en ligne où il peut y avoir de potentiels prospects, de potentiels clients. Et donc, l'idée, en fait, c'est de réussir à s'afficher là où il faut, au bon moment, avec les bons arguments, de façon à ce que les gens prennent contact avec toi via différents canaux. Ça peut être de téléphone, ça peut être un formulaire en ligne, ça peut être une ouverture de compte, ça peut être un achat sur un e-commerce. Dans le fond, si tu veux, ça reste du marketing. C'est faire connaître ton produit, convaincre, réussir à convertir et puis ensuite maintenir une relation avec le client de façon à ce qu'il reste chez toi et qu'il soit satisfait par ton offre.
Et du coup, selon toi, quelles seraient les tendances actuelles les plus excitantes dans le marketing digital et comment tu penses que ça va façonner l'avenir du secteur?
Mmh. Bah, voilà, là, ce qui a vraiment changé tout, on va dire, depuis un certain temps, c'est l'arrivée de l'IA, notamment OpenAI avec ChatGPT, qui a été lancé officiellement en novembre 2022, je crois. Où là, en fait, on assiste bah, vraiment à presque un changement de paradigme parce que tu vas être capable de faire... En fait, l'IA va décupler ta capacité de production, va augmenter ta productivité, va te permettre de faire des choses que tu n'étais peut-être pas capable de faire tout seul. Te permet aussi de lutter contre le symptôme de la page blanche, par exemple. Mm-hmm. Donc, ça change vraiment ta façon de travailler et ça impacte en fait plein de pans différents.
C'est plus excitant qu'effrayant au final parce que c'est un vrai business model qui change quand même pour beaucoup, beaucoup de sociétés. mais en soi c'est pas si destructeur que, enfin destructeur qu'on peut l'entendre parler. Il faut savoir
t'as des gens qui choisiront un peu toujours de voir, tu vois, d'être un peu des Cassandres et de se dire que voilà, c'est fini. Je fais du SEO depuis 15 ans. Tous les ans, il y a un article qui sort pour te dire que le SEO, il est mort.
Il est mort, ouais.
Là, je pense qu'on est face plutôt à un outil. Donc, si toi, tu le vois comme tel, tu prends l'IA et tu l'intègres dans tes processus, dans ta façon de travailler, tu vas forcément en tirer des bénéfices. Après, effectivement, il y a probablement des métiers qui sont voués à disparaître. Mais
ça a toujours existé au final.
Ouais, voilà, c'est un peu les théorèmes d'économie de destruction créatrice. Il y a certains emplois qui disparaissent pour que d'autres
qui se réinventent. Ouais.
C'est pas nécessairement la faute de l'IA. L'IA, c'est un outil.
C'est un game changer.
Voilà, et toi, tu vas l'utiliser comme bon te semble.
Ok. Et par conséquent, quel conseil tu donnerais à ces mêmes novices, qui on a expliqué ce que c'était le marketing digital, qui souhaitent vraiment se lancer dans le secteur? Est-ce qu'il y a des compétences particulières, des connaissances vraiment à privilégier?
Je pense qu'il y a un état d'esprit, déjà. C'est être capable de... Enfin, il faut être passionné, déjà, je pense. Moi, j'ai beaucoup vu des gens qui entendaient parler un peu de marketing digital sur TikTok, sur les réseaux. On leur présente un truc un peu glamour. Comment tu vas monter ton projet et gagner 2000 euros, machin. En fait, et après, ces gens-là, ils se retrouvent devant une étude de mots-clés avec 2000 mots-clés à trier dans un fichier Excel. Ils disent, oh, en fait, c'est pas si sexy, quoi. Et donc, je pense qu'il faut déjà être passionné. Il faut aussi un gros socle de théorie, de connaissances, qu'aujourd'hui, peut-être les gens skippent un peu, je pense. Et d'autant plus là avec l'IA aujourd'hui, ce qui va faire la différence en fait, c'est toutes les connaissances que tu as pu emmagasiner avant, que tu vas pouvoir réinjecter dans ta façon d'utiliser l'IA. Donc quelqu'un qui arrive comme ça et qui se dit bon bah facile, moi je vais sur ChatGPT et je dis tiens ChatGPT, fais-moi une étude de mots-clés pour un site e-commerce qui vend des chaussures. Tu verras en fait très vite que les gens qui ont un gros bagage en marketing digital vont être quand même beaucoup plus performants parce qu'ils connaissent les fondations, parce qu'ils connaissent les bases. Donc moi les gens qui voudraient s'y mettre, je leur dirais toujours la même chose. Faites d'abord beaucoup de théorie, comprendre les bases, ne serait-ce que du SEO.
La logique.
Ouais, les trois piliers, tous les ranking factors, les différentes évolutions qu'il y a eu au fur et à mesure des années. Déjà ça va prendre beaucoup de temps. Et ensuite, je leur dirais aussi de faire un peu ce qui, moi, m'est arrivé naturellement. Prenez un projet. Ne cherchez pas à gagner tout de suite 10 000 euros par mois. Prenez un projet qui vous passionne et montez-le vraiment de A à Z. Donc, en suivant un peu les différentes étapes de la théorie que vous apprenez en même temps. Et si d'un côté, vous avez le livre ouvert et de l'autre côté, vous avez un peu les mains dans le moteur, là, vous arriverez à vous construire un profil qui est vraiment complet. Vous aurez les connaissances et vous aurez aussi les capacités techniques. Vous découvrirez des outils et là, vous aurez en fait, graduellement, vous allez vous construire un profil qui sera vraiment intéressant pour un employeur parce que vous serez capable de tout de suite faire des choses.
Ok, tu es venu ici nous parler d'intelligence artificielle, la manière de l'utiliser pour doper sa productivité. Donc, je vais te laisser tout de suite avec Naïm qui va te poser des questions plus techniques pour rentrer un peu plus en profondeur. En attendant, je te remercie et puis à plus tard alors.
Merci. Ça marche, à plus tard Patrice.
Salut Antoine.
Salut Naïm.
Alors oui, comme Patrice l'a dit, je m'étais noté quelques petites questions que je crois qui seraient intéressantes dans le cadre du podcast. Il y a quelque chose que j'observe beaucoup, déjà bien avant l'IA. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des sites internet, qui ont des blogs aussi, parce qu'au moment de la création de leur site internet, on leur a dit « faites un blog, c'est bon pour le SEO ». Il y a 3 articles de blog sur leur site et ils n'ont pas été mis à jour depuis peut-être plusieurs années. Est-ce que maintenant, avec l'IA, on a la possibilité d'automatiser certaines tâches pour qu'ils puissent entretenir cette partie blog, par exemple?
Ouais, totalement. Alors, c'est même au-delà de certaines tâches, c'est même possible aujourd'hui d'automatiser complètement le process de production, si tant est qu'on garde en fait la main sur le quality control à la fin. Donc, se garder quand même le choix de publier ou non quelque chose qui est produit par l'IA. Mais aujourd'hui, c'est assez facile. C'est une des premières tâches qu'une entreprise peut mettre en place, d'automatiser la création de contenu.
en utilisant le ChatGPT, en lui donnant des consignes, en lui donnant par exemple un plan de contenu. Si vous, vous avez déjà identifié des sujets que vous souhaitiez traiter au fur et à mesure de l'année, en fait, des IA comme par exemple Jasper, qui est spécialisé dans la rédaction de contenu, tu vas pouvoir très facilement lui inculquer ce qu'on appelle du brand knowledge et une voice. Et donc, en fait, très facilement, Jasper va pouvoir adapter sa façon d'écrire et sa façon de parler aux lignes directrices de ta communication en entreprise. Et donc, en fait, tu vas pouvoir très facilement lui demander de générer des articles chartés, on va dire, SEO. On voit hein, le titre, une intro, les paragraphes séparés par des sous-titres en H2, etc. C'est vu que les articles de blog sont des choses qui sont quand même très chartées, l'IA a vraiment pas beaucoup de mal à intégrer ce qu'elle doit faire, à la façon et à la forme dont elle doit produire. Et après ça, en fait, tu peux récupérer très facilement, je dirais, une dizaine d'articles en une journée que tu passeras peut-être après à quelqu'un dans ton équipe qui, avant, avait le rôle d'écrire, mais qui ne pouvait pas écrire 10 articles dans une journée. Aujourd'hui, son rôle, ça va plutôt être de proofread et de valider certains contenus, d'en renvoyer certains dans la machine en disant « Non, bah, au final, là, je ne suis pas très satisfait de la qualité, donc améliore ça de telle ou telle façon. » Ou de se dire, bah, au final, l'article-là, il est top, je peux le poster aujourd'hui. Les trois autres-là, ils sont top, je peux les prévoir pour les trois semaines qui viennent. Et en une après-midi, j'ai réussi à faire déjà trois semaines de boulot.
Et est-ce que tu as des exemples concrets de personnes, d'entreprises qui ont pu utiliser ce genre de technique?
Ouais, je peux me prendre moi-même comme exemple, étant donné que, en plus de mon poste chez Econnect, j'ai aussi une auto-entreprise dans laquelle je gère certains blogs. Et donc sur ces blogs aujourd'hui, moi j'ai très clairement donné en fait une thématique à l'IA. Je lui ai donné les différentes catégories de mon blog, les différentes personas qui sont visées par ce blog ou par ces différentes catégories, et je lui ai demandé de me proposer en fait des types d'articles. Donc il arrive à chaque fois avec chaque catégorie à me proposer 5 ou 6 articles différents pour telle et telle persona. Et ensuite je vais simplement prendre ces idées qui ont été générées via ChatGPT, les importer dans Jasper. Jasper va écrire les articles. Et si tu veux pousser même encore plus loin, tu peux utiliser une automatisation entre Jasper, entre Zapier et Zapier WordPress et Google Drive, dans laquelle en fait tu peux exporter ton article de Jasper sous forme de GDoc, dire à Zapier que quand un GDoc est déposé dans tel dossier de ce drive, il faut le pousser directement en publier sur un WordPress. Du coup, là, en faisant littéralement un drag and drop, tu automatises en fait tout le process, non seulement de réflexion, de planification, de rédaction et de publication, sans que tu aies plus qu'à à cliquer à un moment et à faire un drag and drop, quoi.
Et en termes de concurrence sur Google, est-ce que ça a un impact ?
Alors, Google a été, pour l'instant, sont très clairs. Quand tu vas voir, en fait, sur le Google Search Central, qui est, en fait, un peu les guidelines que Google donne aux gens qui s'intéressent ou qui veulent faire du SEO, il y a une page, en fait, qui s'appelle, j'ai plus le nom exact en tête, mais guidelines pour le contenu généré par IA. Et sur cette page, en fait, Google explique très clairement qu'il traite le contenu généré par IA comme il traiterait le contenu généré par des humains. C'est-à-dire qu'en fait, ce que Google souhaite, c'est que le contenu qui est indexé et qui est mis à disposition des utilisateurs, ils veulent que ce soit du contenu de qualité et qui réponde à la question des utilisateurs. Donc si tu te sers de ton blog pour publier du contenu de mauvaise qualité, on va dire même spammy par exemple, qui a été généré par un humain ou qui a été généré par une IA, le résultat va être le même. Google ne va pas aimer ton contenu et donc risque effectivement de ne pas te renvoyer dans les résultats de recherche. Au contraire, si tu as, via tes prompts, via ton utilisation, on va dire, intelligente de l'IA, réussi à créer des super articles, des guides, des FAQ qui sont d'un niveau de qualité supérieur à celui de tes concurrents qui l'ont fait peut-être à la main il y a très longtemps, de ce qui est écrit dans les guidelines de Google, tu ne seras pas pénalisé. Alors, je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui vont s'y mettre, mais on revient en fait très très souvent dans nos discussions autour de l'IA à la même conclusion. C'est pas tant qui utilise et qui n'utilise pas l'IA, c'est qui l'utilise de la meilleure façon. Et c'est là qu'en fait, on se rend compte que c'est la définition même d'un outil plutôt que d'un remplaçant. Parce que, ben, voilà, je pense que quelqu'un, si demain tu donnes ChatGPT ou Jasper à quelqu'un qui n'a jamais fait de SEO de sa vie, il y a quasiment aucune chance que l'article qui sorte de son utilisation ranke mieux que l'article qui a été généré via ces mêmes outils par quelqu'un qui a 15 ans dans le SEO et qui connaît un peu tous les ranking factors et comment on gère l'optimisation d'un texte.
Donc le maître mot, ça reste pensée utilisateur, pensée réponse utilisateur.
Ouais, ben, pour les guidelines, c'est faire du contenu de qualité unique et qui aide les utilisateurs.
Comment est-ce que tu vois le futur de l'IA ?
Alors, c'est aujourd'hui pour moi une question que je n'ai presque pas le temps de me poser. Parce qu'en fait, envisager le présent de l'IA, c'est déjà assez compliqué, étant donné que ça change tous les jours. Donc très honnêtement, aujourd'hui, là, j'essaye de faire plutôt, et je conseille aux gens qui s'intéressent à l'IA, de faire plutôt au jour le jour, d'essayer de se maintenir en fait chaque jour un peu au courant, de passer sur les blogs de OpenAI, de Copilot, de tous ces différents leaders, on va dire, de l'IA. Et de suivre en fait les évolutions parce que voilà, aujourd'hui en fait il y a une the next big thing tous les jours en fait. Donc
ok, donc depuis le début du podcast, j'ai entendu parler de forcément de ChatGPT, de Jasper. Est-ce que tu utilises d'autres outils au quotidien?
Au quotidien, non. Celui que j'utilise le plus, ça va être ChatGPT. C'est très clairement en version payante.
D'accord.
Après, il y a des outils que je surveille de plus en plus aussi, Copilot de Microsoft notamment.
D'accord.
Qui va être l'intégration de l'IA dans tous les outils de Office 365. J'essaye aussi de plus en plus d'utiliser, en tout cas j'ai utilisé Bard beaucoup au début avec Google. Là, Gemini que je vais commencer à utiliser un petit peu plus. Après, voilà, les journées n'ont que 24 heures malheureusement et c'est difficile de se maintenir à jour de tout. Limite, ce qu'il faut peut-être même envisager de faire, c'est consommer du contenu, regarder les blogs, s'organiser une veille, par exemple, sur l'IA, pour essayer de rester au courant. Et quand on voit quelque chose qui semble intéressant pour une tâche qu'on a réalisée, une responsabilité, essayer d'aller de temps en temps se dire « Ok, j'ai ce truc qui marche très bien sur ChatGPT, je vais essayer d'aller le tester tel quel sur Gemini pour voir un petit peu la qualité et ce que j'arrive à recevoir via un autre outil. »
Donc ce sont des concurrents directs.
Alors tu vas avoir des outils qui sont généralistes, qui appartiennent on va dire aux maisons mères. Effectivement, l'IA de OpenAI, ChatGPT, son but, c'est d'être capable de tout gérer. Bard aussi. Gemini prend ce chemin-là aussi. Par contre, là où tu vas avoir, en dessous de ça, tu vas trouver une myriade de petits services qui s'attaquent en général à une tâche bien précise. Parfois même en utilisant l'API de ChatGPT, tu vois, sous couvert d'un autre service. Mais tu vas avoir, je pense notamment, par exemple, là, je regardais récemment des outils comme Trint ou Sonix qui, via l'IA, se focus spécifiquement sur la création de sous-titres vidéo et de traduction.
Okay.
Donc, tu vas avoir ça. Tu vas avoir Jasper qui, eux, se mettent vraiment sur la case de rédaction de contenu. En fait, tu peux trouver le meilleur en fait pour découvrir tous ces services, parce qu'en fait ça pousse aujourd'hui comme des champignons, il y en a tous les jours des nouveaux qui se créent. C'est simplement de regarder un peu la tâche que tu as en tête ou l'idée que tu as en tête, faire la requête sur Google et d'ajouter AI après, et puis de voir un petit peu qui sont les acteurs sur le marché.
Au début du podcast, tu me parlais aussi des GPTs qu'on peut créer. Est-ce que ce ne serait pas une bonne alternative si je veux automatiser des process dans mon entreprise, la partie RH par exemple, la partie data analyse, est-ce que je peux créer un GPTs qui pourra m'aider au quotidien?
Donc ça, c'est en fait une mise à jour qui a été faite assez récemment chez ChatGPT, qui a ouvert, alors non seulement ils ont ouvert un store dans lequel tu vas pouvoir acheter des GPTs, les GPTs, pour être assez clair, c'est en fait une sous-version de ChatGPT que tu vas personnaliser pour une tâche spécifique en lui donnant des informations et un contexte unique. Donc tu vas pouvoir en fait créer un GPTs qui explique des jeux de plateau aux gens qui viennent chez toi le soir. Tu vas pouvoir créer un GPTs qui en fait, a la personnalité, on dirait presque, d'un data analyst. Donc lui, il va plutôt être spécialisé dans les fonctions Excel, dans l'analyse, dans la déduction et dans les chiffres. Et tu vas pouvoir créer un ChatGPT comme un welcome bot dans ton entreprise qui, par exemple, permet de répondre aux questions des nouveaux arrivants sur différentes thématiques. Donc ça, on pourra en parler aussi un petit peu après.
D'accord. On parlait des différents outils. Du coup, on a un podcast luxembourgeois, donc j'aimerais bien mettre un peu de lumière sur Let's AI. Est-ce que c'est un tool qui peut donner au Luxembourg sa place dans le domaine de l'intelligence artificielle?
Ouais. Bah, je pense, je sais qu'ils ont fait une conférence très récemment pour montrer un petit peu l'outil dont voilà, deux membres de eConnect ont assisté. Et de ce que j'ai compris, en fait, ils ont clairement une carte à jouer par rapport à la façon dont ils ont entraîné leur modèle basé sur des informations et des thèmes luxembourgeois, donc qui vont permettre d'avoir peut-être des résultats plus locaux, en tout cas, que des IA globales. Et donc, ouais, je pense que ça risque d'être intéressant au niveau local. Mais de toute façon, de ce que j'ai compris, le modèle de Let's AI permettra aussi, en tout cas, de fortes armes pour se défendre par rapport même aux géants du secteur.
Je me posais aussi la question, on parle beaucoup de professionnels pour le moment, mais après le professionnel, il y a aussi la vie perso. J'aimerais bien optimiser ma vie perso avec l'IA. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut m'aider dans certaines tâches du quotidien?
Ouais. Alors moi, c'est un truc que c'est même comme ça que j'ai commencé à m'en servir le plus, parce qu'en fait, au début, la qualité de l'output des IA n'était pas non plus encore... on va dire un niveau professionnel, donc c'était parfois difficile de sortir ça pour un client ou pour une agence. Et par contre, au niveau perso, on a pu l'utiliser de plein de façons différentes. Alors, je vais vous donner des exemples pêle-mêle. Donc, on l'a déjà cité, mais je joue souvent à des jeux de plateau. En général, il faut toujours les expliquer. Là, aujourd'hui, en fait, vous pouvez mettre 4 personnes devant et taper un prompt « explique à 4 personnes comment jouer à Seven Wonders ». Il va réussir, il va faire un truc parfait qui est mieux que ce que j'ai pu faire à chaque fois dans ma vie. Comment planifier ses vacances? Si vous avez plus envie de vous balader sur 46 blogs voyages d'affilée, de passer 3 heures à lire des contenus sponsorisés, pas sponsorisés, on ne sait pas trop. Vous pouvez tout simplement demander à ChatGPT de vous prévoir un petit trek en Norvège sur 7 jours en passant par ici avec 3 jours de repos à la fin. C'est un truc qui est parfaitement capable de faire. Générer des idées cadeaux. Honnêtement, toutes les tâches sur lesquelles on bute un petit peu en général dans la vie, je vous conseille d'aller les tester sur ChatGPT. Je sais que j'ai des amis aussi qui sont parents, qui parfois, leurs enfants ont un certain âge, ils ont du mal des fois à savoir, tu vois, quel type de contenu ils peuvent laisser leurs enfants consommer. Et typiquement, si tu vas demander à ChatGPT, tiens, est-ce que Fortnite, c'est un jeu qui est OK pour un enfant de 7 ans, parce que toi, tu as 40 ans, tu sais plus trop ce que c'est Fortnite. Toutes les choses où tu n'as pas nécessairement la réponse, mais tu sais que la réponse se trouve en ligne, en fait, tu peux le demander à ChatGPT. Donc voilà, niveau perso, il y a limite presque plus de potentiel que professionnellement, je trouve.
C'est très intéressant. Maintenant, j'aurais aimé te poser quelques petites questions corsées. La petite question ristretto de Café Clutch. On parle beaucoup de l'IA, on a parlé beaucoup de positifs. Il y a quand même des points qui semblent un peu fâchés. Le premier gros point sur l'IA, c'est quelles sont les limites éthique qu'une entreprise peut avoir avec l'IA? Est-ce qu'on peut facturer un copywriting, un développement, du support fait par IA au prix d'une prestation faite par un humain, par exemple?
Alors ça engage en fait ma vision personnelle des choses, mais j'aurais tendance à dire que oui. Parce qu'en fait, le service qu'on fournit, qu'il ait été fait par un humain ou par une IA, ce que tu fournis en fait, c'est une valeur ajoutée, une plus-value. Quand tu aides une entreprise, et il y a des tonnes et des tonnes d'exemples, connus ou moins connus, qui démontrent qu'en fait, l'important, ce n'est pas toujours le temps qu'une tâche a pris, et ce n'est pas ça qui doit définir sa valeur. On peut prendre comme exemple, prenons le designer d'un logo, ou d'un slogan, donc le designer ou le, voilà, l'esprit brillant qui un jour dit à Nike « Just do it », c'est une phrase en trois mots. Évidemment, cette personne ne doit pas se faire payer au mot. Son slogan ne vaut pas $3. Ça a permis de générer des milliards de dollars à une entreprise, d'être connue mondialement. Donc là, moi, je retrouve un petit peu le même principe au niveau de l'IA. C'est-à-dire que l'important, ce n'est pas tant combien de temps ça t'a pris à toi, c'est quelle est la valeur que la personne qui reçoit le service en retire. Et c'est ça, en fait, qui devrait toujours définir le prix d'un service. Voilà. C'est pas parce que tu mets beaucoup de temps à faire quelque chose de mauvaise qualité que ça coûte plus cher.
Mais du coup, est-ce que ces mêmes entreprises ont l'obligation éthique, devraient avoir l'obligation éthique, quand telle facture, une prestation faite avec IA, de le faire remarquer, d'avoir une petite note répondue avec IA ou faite avec IA?
Ouais, une sorte de disclaimer, c'est effectivement quelque chose, une chose à laquelle on peut penser. D'un autre côté, je pense que très vite, les entreprises voilà, qui vont recevoir des services produits par IA, de toute façon, vont soit s'en rendre compte directement, puisque quand tu vas, par exemple, te retrouver à discuter avec un chatbot, au final, tu sauras que derrière, c'est une IA, tu vas assez vite le voir. Quand quelqu'un va être capable de te livrer 15 articles de blog en une journée ou peut-être même en 4 heures, tu vas aussi te douter effectivement qu'ils ont utilisé l'IA. Mais alors pourquoi pas prévenir effectivement, oui, ça me semble pas être, je pense pas que ça devrait être obligatoire, mais si des entreprises veulent être transparentes et voilà, dire que leurs services ont été réalisés avec l'aide de l'IA. Moi, ça me paraît pas choquant. Je pense même que c'est un gage de qualité parce que ça veut dire que c'est des gens qui s'intéressent au marché, à sa transformation, aux outils, à des outils novateurs.
Et une petite dernière question, cette fois-ci, pas du côté client, mais du côté prestataire. Est-ce que tous les travailleurs du web vont devenir des prompteurs?
Alors, je sais pas s'ils vont tous le devenir, mais je pense qu'ils gagneraient tous à trouver dans leur process ou dans leur façon de travailler, des endroits qui peuvent être améliorés. Est-ce que c'est à eux de faire le prompt ou pas? Pas forcément. Il y a aujourd'hui plein de librairies de prompt en ligne sur des plateformes type Notion.site. Mais par contre, sans avoir à devenir soi-même le prompteur, trouver des prompts qui vous permettent d'améliorer, d'optimiser votre façon de travailler, pour moi, c'est essentiel. Je pense que c'est vraiment passer à côté de quelque chose, de ne pas le faire. Je viens de dire un truc tout simple, hein, mais une personne qui est capable d'automatiser la rédaction d'articles simples pour pouvoir se concentrer sur la rédaction de guides techniques ultra précis, en fait, elle va peut-être utiliser des prompts, mais en fait, c'est pour se libérer du temps, pour réussir à faire un travail top qualité qui aujourd'hui n'est pas encore réalisable par les IA. Donc, on n'est pas tous condamnés à devenir des prompteurs, mais je pense que on est tous voués à utiliser des prompts sous peu si on souhaite voilà, utiliser notre potentiel à 100%.
Donc on aura un avantage plutôt en termes de productivité. C'est ouais. Ça le gros point.
Ouais, de productivité, d'output de production. Je tiens quand même à noter une chose pour revenir un petit peu au début de ce podcast. On parlait un peu de remplacement, voilà, est-ce que l'IA va remplacer les travailleurs? Je pense pas que ça va être le cas parce qu'aujourd'hui, si moi je reprends au tout début quand l'IA est sortie, j'ai eu des discussions avec des collègues, des proches. Et eux, en fait, certaines personnes avaient cette vision du « il y a un patron qui a 10 employés ». L'IA, en fait, va lui permettre d'enlever ses 10 employés et donc de faire des économies et de tout faire produire par IA. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel patron qui a fait ça au début de l'IA, son entreprise n'existe plus. Parce que si tu fais ça, en fait, tu vas possiblement garder le même niveau de production, mais tu vas tellement faire chuter la qualité de ta production qu'en fait, il n'y a aucun de tes clients qui va rester. Tu vas perdre tes clients. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt garder tes employés, ils vont réussir à produire beaucoup plus, de façon peut-être même moins stressante, avec beaucoup plus d'avantages, beaucoup plus aussi de temps libre pour dédier ça à d'autres choses. Et donc, moi, je dirais, voilà, c'est, il ne faut pas, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas penser que ça va remplacer, il faut le voir comme un outil et réussir à s'en servir du mieux possible.
Bah, c'est super intéressant, merci à toi Antoine.
Yes, merci à vous de m'avoir invité.
On est de retour avec Naïm. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du tournage de ce premier épisode ?
C'était vraiment super intéressant. Ça fait pas mal d'infos, pas mal de conseils que j'ai déjà envie de mettre en place pour augmenter ma productivité, que ce soit sur Café Clutch ou sur mes projets perso. Donc, ouais, très content d'avoir fait cet épisode.
C'est clair. Pour une première expérience, je trouve qu'on s'en est pas mal sorti. Ah bon, maintenant, on ne peut pas avoir publié 100 épisodes sans avoir fait le premier. Hein, donc, pensez à nous faire des commentaires constructifs pour les prochains enregistrements. Sinon, avec Antoine, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait une plutôt bonne synergie. Il m'a rassuré avec l'arrivée en masse des outils d'intelligence artificielle. Donc, je suis assez convaincu oui, qu'on ferait un excellent trio.
Oui, ce serait vraiment sympa de lui laisser de temps en temps une petite place sur le canapé Clutch pour une petite chronique régulière, pourquoi pas.
Exactement. Allez, ce premier épisode touche à sa fin.
On est disponible sur toutes les plateformes de podcast, donc n'hésitez pas à nous suivre, mettre un petit like, un petit commentaire, ça aide l'algo.
Et notre ego.
Allez, salut Patrice.
Salut, et surtout n'oubliez pas, chez nous, le seul cookie que vous trouverez, c'est dans votre café. À bientôt, bisous.
Salut.